Bonsoir Annette, bonsoir à toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous rappelez que je vous ai parlé de l'appel de Jésus à le servir. Vous vous rappelez sans doute de cela. Nous étions dans Luc. Nous allons y retourner. Dans Luc chapitre 10, verset 2, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Effectivement, en rapport avec le texte que je vous avais lu précédemment, dans Luc, où le figuier Jérusalem n'avait rien produit pendant 3 ans, ni la vigne, le vigneron Christ intercède pour que le figuier Jérusalem et la vigne Israël soient épargnés et qu'ils puissent mettre du fumier alentour des racines de cet arbre. Rappelez-vous l'intercession de Abraham concernant Sodome et Gomorre, n'est-ce pas? Donc, Sodome et Gomorre n'ont pas été épargnés par le feu parce qu'il n'y avait même pas un juste. Enfin, il y avait quelqu'un qui était compromis malgré tout, c'était Lot qui a dû évacuer de force les anges l'ont empoigné, ainsi que sa fille. Mais ce qu'il y a, c'est que dans Jérusalem, Jérusalem ne va pas être détruit tout de suite, va être détruit beaucoup plus tard par Titus. Et ce qu'il y a, c'est durant ces années, cette année qui va suivre la mort et la résurrection de Jésus, un immense essor spirituel va avoir lieu à Jérusalem, et puis en Judée, puis en Samarie, en Galilée. Donc tout ce qui s'est passé après la mort et la résurrection de Jésus a été la manifestation que le fumier avait fait effet. Au pied du figuier, le vigneron avait demandé de pouvoir mettre du fumier. Or, le vigneron, c'est Jésus-Christ, et il a donné sa vie, qui a naturellement été mise en terre comme le fumier. Et ce qu'il y a, c'est que Jésus a produit le bon résultat pour le figuier et pour Israël. Il y a eu 20 à 25 000 Juifs qui se sont convertis. Et c'est le point de départ de toute l'Église de Jésus-Christ dans le monde. Donc, le verset de Luc, chapitre 10, verset 2, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est très grande dès les premiers jours après la mort et la résurrection de Jésus. Pierre prend la parole. Et il y a plusieurs conversions, une fois 3 000, une fois 5 000, etc. Et ça monte en crescendo. Et tous ces gens s'engagent très fortement en partageant leurs biens pour que tous les autres qui se convertissent puissent être enseignés par les apôtres et rester 2, 3 mois là, être solidement enseignés dans le témoignage, l'enseignement des apôtres. Donc les ouvriers se sont levés, évidemment. Nous pourrions, évidemment, nous demander comment réagissent ces ouvriers. Et j'ai trouvé en méditant la parole de Dieu que dans Josué chapitre 14, verset 6, il y avait deux sortes d'ouvriers. Les fils de 14, verset 6, Josué. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. C'est un endroit qui n'est pas loin du Jourdain, au pied des collines de Judée, et qui était toujours le lieu de rassemblement, le lieu de recueillement aussi, le lieu de préparatif pour les guerres et aussi pour les fuites. On s'enfuyait là pour se regrouper et retrouver des forces morales, spirituelles et militaires. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet, et où tient Kadesh Barnéa ?» Alors, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa, c'est un endroit dans le désert, hein, au sud d'Israël, pour explorer le pays. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et c'est quelque chose qui réellement a eu lieu, n'est-ce pas? Et la discussion est très serrée. Je vais vous lire les versets qui suivent. En ce jour-là, Moïse jura en disant « Le pays que ton pied a foulé selon sera ton héritage en perpétuité pour toi et tes enfants parce que tu as suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Maintenant, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans, je suis encore vigoureux, mais au jour où Moïse m'envoya, j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, donc des géants, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, lui donna Hébron pour héritage. Alors, c'est ainsi que Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Bon, on a deux hommes qui ont été, avec 10 autres, faire le tour de toute la Palestine jusque à Hamat, c'est-à-dire sur le fleuve Euphrate. Donc, c'est la région actuellement que la Turquie occupe, en Syrie, qu'elle a envahie illégalement, un peu comme Poutine fait en Ukraine, elle l'a envahi et n'a jamais rendu. Et dans cette région de Syrie, qui est extrêmement prospère tout près de l'Euphrate, les raisins sont vrais, sont exceptionnellement gros. J'ai des amis à Saint-Marc qui sont de cette région-là, des amis chrétiens syriens, et qui ont vu toute leur enfance d'énormes grappes de raisins. Et c'est là qu'ont été les trouver Josué et Caleb et tous les autres. Quand ils les ont rapportés sur leur épaule, ils avaient des perches de bois et ils avaient pendu toutes les grappes de raisins pour faire la preuve à Moïse et à tous les autres qui attendaient, de l'autre côté du Jourdain, que c'était possible d'avoir un pays prospère là, qu'il était promis par Dieu. C'est assez étonnant, moi je m'émerveille toujours que en rencontrant des réfugiés d'un peu partout, j'ai des indicatifs, des indications, des confirmations de choses dans la Bible. Et ça, c'est formidable, comme moi j'en ai eu moi-même en allant en Israël en 2008. Donc, vous voyez, il y a deux sortes d'ouvriers pour le Seigneur. Il y a les ouvriers qui gardent fidèlement, qui font un rapport avec droiture de cœur, qui ne découragent pas le peuple, qui suivent pleinement la voie de l'Éternel, c'est Josué 14, versets 7 et 8. Voilà, ils ne découragent pas le peuple. Aujourd'hui, il est clair que peu de gens encouragent les hommes et les femmes à avoir de l'espoir, de l'espérance. Peu, très peu. C'est la sinistrose. Et beaucoup d'hommes religieux n'apporte pas cette espérance, n'apporte pas cette foi. Pour ma part, si j'ai pris la décision de faire des messages sur Internet depuis le mois de mars 2020, c'est à cause de cette situation qui abîme le cœur, l'âme des hommes. Et je ne veux pas que vous soyez découragés. Je veux que vous soyez plein d'espérance Dieu est vivant. Dieu est ressuscité. Dieu a pour nous un projet, un avenir. Alors, nous allons reprendre où les projets de Dieu ont été formulés clairement. Nous allons aller dans Genèse, chapitre 12. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. C'est écrit par, bien sûr, par Moïse. Genèse, chapitre 12. Pensez bien que quand Jésus appelle ses disciples à prier pour qu'il y ait des ouvriers, c'est Dieu qui appelle à ce que nous soyons ouvriers. De quoi? Ah, mais regardons. Genèse, chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, qui habitait dans le sud de l'Irak, dans le pays de la Chaldée, ce qu'on appelle aussi en hébreu Shinéar, dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. En hébreu, il faut comprendre ceci. Tu quittes le pays, tu quittes la religion qui est là, tu quittes tous les rites, tu quittes la richesse, tu quittes le confort matériel, tu quittes toutes les superstitions, tu quittes toutes les croyances, et tu me laisses travailler ton âme, ton esprit, ton cœur, et je me ferai connaître à toi. Je suis le seul vrai Dieu, je n'ai pas besoin de statut, je n'ai pas besoin de bataille, je n'ai pas besoin du péché de l'homme pour être connu. Je suis sans péché, je donne la mort et la résurrection. Je donne la mort à cause du péché de l'homme, mais je donne la résurrection. Abraham, dans Hébreux chapitre 11, avait foi dans la résurrection des morts. Et il avait foi aussi en autre chose. Dieu lui imputa sa justice à cause de sa foi. Ça veut dire quoi? Que Abraham avait confiance que Dieu pardonne aux pécheurs ses péchés. Et qu'il avait... Il avait la certitude que Dieu avait plein de compassion pour l'homme et ne s'arrêtait pas au péché de l'homme. Il voulait mieux pour l'homme. Il voulait une restauration complète de l'homme et une révolution des mœurs et du cœur de l'homme par pure grâce. Et pour cela, il fallait pardonner à l'homme. Et pour cela, il faut que l'homme, bien sûr, se rende compte du mal qu'il a dans son âme et demande pardon, une fois pour toutes. Donc, dans Genèse, chapitre 12, verset 3, c'est un grand tournant, un très grand tournant. J'ai lu le verset 1, voici le verset 2, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc la promesse, c'est que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Mais attention, il ne faut pas se moquer quand même de lui. Et il est clair que si Dieu a compassion d'un tel homme qui a osé quitter tout le confort de la région du sud, d'une région très prospère à cette époque-là, du sud de l'Irak, toutes les populations venaient là. Au niveau archéologique, au niveau historique, on le voit, il y a eu énormément de flux migratoires vers cette région. Et contrairement à tout le monde, Abraham a été dans des régions plus pauvres, plus désertiques. Il a fait le chemin dans le sens inverse. C'est un contestataire dans l'âme, tout compte fait, mais parce que Dieu lui a demandé. Chapitre 15 de Genèse, verset 4. La parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Je vais peut-être lire juste avant. Je vais peut-être lire avant. 15. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, il avait 80 ans, l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, donc un neveu, un petit neveu. Abraham dit, voici. Tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, ce qui lui fut imputé à justice, c'est-à-dire, il lui a pardonné tous ses péchés à cause de la foi qu'il avait. Alors, vous voyez qu'Abraham va avoir plus tard un fils qui s'appelle Isaac, et aussi un autre, Ismaël, mais ce qu'il a, il a le pardon des péchés aussi. Il a une pleine relation de confiance avec Dieu. Et ça, c'est nouveau. Une relation d'angoisse, une relation d'incertitude, d'incrédulité, de superstition, de religiosité, tout ça, ça existe. Mais une religion, une relation de confiance en direct avec Dieu, c'est très rare. C'est ce qui est arrivé à Abraham. C'est ce qui était après dans la vie et qui est dans la vie de Jésus-Christ de Nazareth, entre son père et lui. Et normalement, depuis que nous avons cru en Jésus-Christ et reçu le Saint-Esprit, c'est aussi la relation que nous avons avec Dieu, en direct. Il n'y a pas besoin de saint, de sainte, de mort qui nous parle, etc. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire, de pape ou d'évêque ou de pasteur. Dieu peut parler à ma conscience. Lisons la Bible, méditons-la et vous verrez, l'Esprit Saint de Dieu parlera à notre cœur et nous conduira dans sa paix. Le fruit réellement de la bonne relation avec Dieu, c'est la paix, quelles que soient les circonstances. La force aussi. Chapitre 17. Genèse, chapitre 17. Donc Dieu est en train de forger, c'est pour ça que je les prends, en train de forger un ouvrier. Je vous rappelle que Jésus a demandé, priez pour que le maître envoie des ouvriers dans la moisson. Ben, Dieu est en train de forger un ouvrier, c'est Abraham. Pourquoi pas nous? Il peut forger un morceau de métal passé dans le feu et passé sur l'enclume avec le marteau, prend la forme qu'on lui donne. L'argile dans les mains d'un potier, qui a droit et qui a un bon tour, une machine pour faire des pots, eh bien, l'argile donne de beaux vases. Et nous aussi, nous pouvons devenir de bons ouvriers. Nul doute que c'est notre destinée. Alors, Genèse 17, verset 3. Je vais commencer au verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans pour les Belges, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, le montagnard, le Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Donc, sois en relation avec moi. Sois intègre, c'est-à-dire, obéis-moi, accomplis ma volonté. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Alors, la question de la postérité est quelque chose de très important. Il est mis ta postérité. Alors, Paul explique, l'apôtre Paul explique cela dans Galates, au chapitre 3. Nous allons aller dans l'épître aux Galates. Galates, chapitre 3. Verset 15. Frères, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs descendances, mais il s'agit d'une seule, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici donc ce que je veux vous dire, chers frères. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut être annulé aujourd'hui. Ainsi, la promesse rendue sans effet par la loi de Moïse, survenue 430 ans avant, parce que personne n'a obéi vraiment à la loi, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. C'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham le don de sa grâce. Impossible d'hériter le pardon des péchés et impossible de voir ce monde changer, de voir ce monde vivre dans la droiture et la vérité, dans le Saint-Esprit, par l'accomplissement des lois, des 10 commandements. C'est impossible. Les hommes n'y ont jamais obéi. Ils n'y obéiront jamais. Certains essayent, d'autres s'en fichent. Et d'autres, de toute façon, font semblant. Il y a de toutes les sortes. Mais ce qu'il y a, la promesse peut être donnée par grâce, c'est-à-dire par un cadeau, sans qu'on le mérite. Et ça, c'est ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? L'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Ça, c'est Galates, chapitre 3, verset 22. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés tous sous la loi, comme sous un précepteur, en vue de la foi qui devait être révélée en Jésus-Christ. La loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Jésus-Christ, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés par la foi, et non pas par la loi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous le précepteur de la loi. Vous êtes tous, et nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un devant Dieu, en Dieu, par Jésus-Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, vous êtes héritier de la promesse faite à Abraham. Donc, nous avons dans ce texte de Galates l'explication de la grande prophétie de Dieu faite à Abraham, ensuite à Isaac, ensuite à Jacob. Tout homme qui accepte Jésus-Christ reçoit le pardon de ses péchés comme Abraham l'a reçu. Et tout homme, toute femme, quelle que soit sa race, sa condition sociale, son sexe, sa nationalité, a droit à la grâce à part entière. C'est ça qui est mis. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, nous sommes, d'après cet écrit, tous à égalité devant Dieu en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples que personne ne se fasse appeler parmi vous maître, père, directeur, etc. Car vous êtes tous frères et sœurs. Un seul parmi vous est directeur et maître, Jésus-Christ. C'est très important, chers amis, de comprendre que aucun homme n'est maître de l'autre. C'est Jésus-Christ, notre maître. Le bon maître sans péché, qui a donné sa vie pour nous sur la croix, qui est ressuscité, qui est vivant. Voyons Michée, chapitre 6, 8 siècles avant Jésus, dans les 10 tribus du Nord, Michée, chapitre 6, verset 18. Michée, chapitre 6, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, ô Dieu, toi qui pardonnes l'iniquité, qui oublies les péchés de l'homme? Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité? L'iniquité, c'est les péchés commis volontairement. Il n'y a pas que ceux qu'on fait par mégarde, par distraction, par ignorance. Il y a ceux qu'on fait volontairement aussi, hein, il y en a pas mal. Qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Tu ne gardes pas ta colère à toujours. Tu prends plaisir à la miséricorde. Tu auras encore compassion de nous. Tu mettras sous tes pieds nos péchés, nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham. Qu'est-ce que dit ce prophète au 8e siècle? Que Dieu, avec certitude, témoignera que sa parole donnée à Abraham est respectable et sera respectée. Les péchés des hommes seront jetés au fond de la mer. Ils seront noyés. Ils seront disparus. Les péchés seront morts. C'est un grand cadeau, chers amis, que de savoir cela. Ça veut dire que tout ce que nous voyons sur la terre, tous les mensonges, les iniquités, les meurtres, les guerres, que nous voyons en télévision, à la radio, tout cela un jour sera jeté comme de la poussière au fond des océans. Alors, prenons les actes des apôtres au chapitre 3, verset 25. Actes des apôtres, chapitre 3, verset 25. Vous savez, mes frères et mes sœurs, vous avez tous des épreuves. Les choses sont parfois très difficiles dans notre cœur, dans notre âme. Parfois, à l'intérieur, c'est dur. Nous sommes vraiment en souffrance parfois. Nous vivons des mauvais moments parfois dans nos cœurs. Mais sachez bien que Dieu est fidèle et bon. Sachez bien que Dieu vous aime et que Dieu est le vrai Dieu de la Bible. Il n'y a pas de mal en lui. Il vous regarde avec amour et il veut jeter tous vos maux, toutes vos souffrances, vos meurtrissures dans l'océan. C'est fini. C'est fini. Pourquoi que c'est déjà fini? Parce qu'il les a portés à la croix. Jésus a porté tous vos maux sur la croix. Il a porté toutes vos meurtrissures. Déchargez-vous. Dites-lui, Seigneur, je souffre. Seigneur, j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta présence dans mon cœur. Augmente mon amour pour toi, Seigneur, que je te connaisse parfaitement, infiniment, que mon cœur soit en paix dans le plus grand amour. C'est le plus grand amour, Seigneur, que je désire connaître. Ce n'est pas des petits amours humains. C'est le plus grand amour, c'est le tien, Seigneur Jésus. Je veux le connaître, fais-moi le connaître. Révèle-toi en moi, Seigneur. Apaise mon cœur, donne-moi ta paix, Seigneur. Guéris mon cœur de toutes ces souffrances, de toutes ces incertitudes, de toutes ces colères, de toutes ces hésitations. Oui, Seigneur Jésus, je sais que tu m'entends, je te dépose tout cela. Actes chapitre 3. Verset 19. Je vais commencer au verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 17. Frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Il parle aux responsables juifs qui ont crucifié Jésus. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Messie devait souffrir et mourir sur la croix. Repentez-vous donc changez de vie, demandez pardon pour vos péchés, convertissez-vous, donc il faut changer complètement, il faut vraiment demander pardon et décider de vivre en obéissant à Dieu, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Le rafraîchissement de mon âme, le rafraîchissement de mon cœur, la brise légère qui me fait du bien, qui n'est ni trop chaude ni trop froide, et qui me donne la paix, la brise légère, le rafraîchissement dû à la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ce saint prophète d'autrefois. Rétablissement de toutes choses? Oui, évidemment. L'agneau qui dort avec le lion, le chat qui dort avec l'hirondelle, l'homme qui ne viole plus les enfants, la femme qui n'abandonne pas ses enfants, les fabricants d'armes, plus du tout, les marchands de bombes, plus du tout. Les guerres, non. Il y a plein de textes dans la Bible là-dessus, surtout dans Ésaïe. Alors, chers amis, c'est ça les temps de rafraîchissement, le rétablissement de toutes les choses. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète, donc quelqu'un qui parlera au nom de Dieu, comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Quiconque n'écoutera pas Jésus-Christ sera exterminé du peuple. Jésus-Christ ne veut pas notre mort. C'est clair, Moïse était très sévère. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète Jésus, ce Messie Jésus, ira par lui-même à la mort. Par lui-même, il restera séparé de Dieu et il connaîtra l'enfer. C'est clair. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères, Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses fautes. Donc Jésus est le bon berger qui nous conduit hors du péché, mais vers la vérité, dans la vérité, parce qu'il est la vérité, parce qu'il est la vie. Les apôtres ont témoigné cela. Ça, c'est l'enseignement de l'Évangile. Prenons Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Suis-je loin du thème des ouvriers que Jésus demande ? Priez pour que le maître envoie des ouvriers dans sa moisson. Non, pas du tout. Si je suis pardonné de mes péchés, j'ai la paix. Et je ne désire qu'une chose, c'est que mon entourage connaisse cette paix aussi, ce bonheur de l'âme et la résurrection. Et un autre monde où on ne se détruit pas, on ne se ment pas, on ne se fait pas du mal. Un autre monde construit par Dieu, où Satan n'a plus de place. Alors, Romains, chapitre 4, verset 13. Ce n'est pas par la loi, donc les règlements de Moïse, que l'héritage du monde a été promis à Abraham, ou à sa postérité, donc à Jésus-Christ. Quand on respecte les 10 commandements de Dieu, on n'arrivera pas de toute façon à le faire, à les respecter tous. Il y en a toujours bien ou deux qu'on va faire, on va rater. Mais ce qu'il y a, l'héritage du monde, c'est-à-dire la vie éternelle et la résurrection, on n'aura pas comme ça. C'est juste un code de la route, la loi. La loi donnée à Moïse. C'est un code de la route pour dire, roule à droite, pas à gauche. Dépasse pas la vitesse en agglomération. Attention dans les tournants, etc. Bon. Mais c'est un code de la route. Le code de la route ne fait pas de moi un être qui va au ciel. Mais c'est pas plus. La loi de Moïse ne m'amène pas au ciel. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Dieu dit dans ces paroles-là? Les héritiers de Dieu le sont par la foi, donc, c'est-à-dire la confiance en Jésus, pour que ce soit par grâce, donc gratuit, un cadeau immérité, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, c'est-à-dire à tous ceux qui ont la foi. Pas besoin d'être riche, pas besoin d'être diplômé de l'université, pas besoin d'avoir des grandes expériences de la vie, il suffit d'avoir la foi pour avoir la vie éternelle et la résurrection. C'est égalité de chance pour la vie éternelle. C'est le seul bien où nous sommes égaux. C'est le pardon de Jésus et le don de la vie éternelle. Il suffit d'avoir confiance en Jésus, de donner sa foi à Jésus, de demander pardon pour le péché qui était en moi et que je n'aime plus. Je préfère aimer Jésus-Christ et son enseignement et sa parole. Les héritiers de Dieu le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, donc aux Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Donc, la foi d'Abraham, ça dépasse les Juifs. Il y a plein d'autres personnes qui ont cette foi en Dieu, un Dieu unique, qui donne la vie, qui pardonne les péchés, qui ressuscite les morts. Eh bien, cette foi nous rend égaux. Et c'est pour cela que Dieu a dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, c'est-à-dire Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Donc Abraham n'a pas faibli dans la foi. Il a fait confiance, il a marché dans cette foi. Personnellement, chers amis, j'ai cette foi. Que vous avez égalité de chance avec moi et avec n'importe qui. Acceptez Jésus. Il n'y a pas besoin d'argent. Il n'y a pas besoin d'en donner à monsieur le pape, à monsieur l'évêque, ou pour une messe de mort. Il n'y a pas besoin de donner d'argent pour avoir le salut. Juste sa confiance à Jésus. Il n'y a pas besoin de donner un champ, une maison, une rue entière, des millions à tel monseigneur, à tel prêtre, à tel pasteur. Pour être sauvé, il faut donner sa foi, sa confiance à Jésus-Christ. On n'achète pas le salut, on le reçoit. On le reçoit de Jésus, notre cher sauveur et ami, notre frère. Romains 10. Mais en ce sens-là, vous comprenez bien que quand on est heureux d'être aimé de Dieu, qu'on a confiance dans Jésus-Christ, on a envie d'être son ouvrier. On a envie que d'autres soient, rentrent dans la famille des sauvés. Donc on devient forcément, petit à petit, un ouvrier, une ouvrière du bonheur des autres, du bonheur éternel. Romains 10. Moïse définit ainsi la sainteté qui vient de la loi, des 10 commandements. L'homme qui mettra toutes ces choses dans la loi, en pratique, vivra par elles. Mais voici comment on parle la sainteté qui vient de la foi, le pardon des péchés qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui va monter au ciel, qui descendra dans l'abîme. La parole est près de toi, la parole de Jésus, dans ta bouche, dans ton cœur. C'est la parole de la foi, de la confiance. Dis avec confiance à Jésus que tu l'aimes et que tu crois en lui. C'est la parole de la foi qui est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est cette parole-là que nous prêchons. Nous, croyants, nous ne demandons rien d'autre aux humains. C'est qu'ils sortent de leur cœur une parole de paix, de confiance en Jésus, qui les met éternellement dans la vie éternelle. Cette parole de la foi, du cœur, elle doit sortir de la bouche, de la part de la personne. Si tu confesses de ta bouche la personne du Seigneur Jésus, si tu crois de tout ton cœur, dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au pardon des péchés, à la justice. C'est en confessant de la bouche, donc en parlant de Jésus et du pardon qu'il me donne à la croix, que je parviens au salut. Je parviens au salut par simplement des choses si simples. Ça paraît drôle. Pas de procession, pas de pèlerinage, pas de carême, pas de ramadan. Ça paraît si simple. Et pourtant, c'est si vrai. Il y a eu beaucoup de gens pour déformer le message de Jésus, chers amis. Ce n'étaient pas des vrais ouvriers. Le vrai ouvrier vous montre les choses simples de Jésus. Dieu est venu simplement sur terre en Jésus de Nazareth, le charpentier, pour dire des choses simples. Voyez mon fils, croyez en lui. Et vous serez sauvés. Voyez mon fils sur la croix. Croyez dans son sacrifice pour vous. Et vous serez sauvés. Voyez mon fils ressuscité du tombeau. Croyez en lui. Et vous serez dans la résurrection. Avec tous les justes et les saints. Pour l'éternité. Alors, Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, verset 12. Si la chute de nombreux juifs qui n'ont pas cru en Jésus est devenue la richesse du monde. Oui, parce que les chrétiens ont dû fuir Jérusalem et la Galilée, Judée, suite aux persécutions des responsables juifs. Donc leur chute, leur opposition est devenue la richesse du monde, c'est-à-dire que l'évangile s'est répandu grâce à ça. Que leur amoindrissement est devenu la richesse des païens. Combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Paul dit que Dieu a déjà, dans un plan bien établi, le salut du monde juif comme du monde des païens. Si beaucoup de juifs aujourd'hui ne croient pas en Jésus, c'est pas grave. Actuellement, énormément de juifs se convertissent. Je l'ai vu en Israël en 2008. Mais ça continue. Et ça se fera. Chers amis, ne doutons pas de l'autorité de Jésus. Toutes les nations, y compris les juifs. Donc il n'y a pas d'antisémitisme. Et il ne faut pas aussi être anti-musulman. Il y a beaucoup de musulmans qui cherchent sincèrement, vraiment Dieu, qui souffrent de toutes les djihadistes, de tous ces gens qui ont déformé leur honneur, leurs croyances. Allons dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 3. Éphésiens chapitre 3, verset 3. C'est par à 9. C'est par révélation que j'ai eu connaissance de la personne de Jésus-Christ, sur lequel je viens de vous écrire en peu de mots. En lisant ces mots, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas été manifesté aux humains dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit Saint à tous les saints apôtres et aux prophètes de Jésus-Christ. Ce mystère, donc cette réalité que Dieu fait comprendre, ce mystère, c'est que les païens sont héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Ils sont co-héritiers avec Israël. Chers amis, nous ne pouvons pas être racistes. Et nous ne pouvons pas être antisémites quand nous sommes chrétiens. Tout le monde a droit, au pied de la croix, devant Jésus-Christ, à déposer sa confiance. Et tout le monde a droit à recevoir le pardon et la vie éternelle. Prenons Apocalypse chapitre 7. Dans le livre de la Révélation, Apocalyptein, ça a été traduit, le mot grec veut dire révélation, un dévoilement. Bon, c'est devenu en français apocalypse, et souvent on a déformé le sens du mot. En anglais, dans les Bibles, c'est révélation, dévoilement. Bon, en tout cas, Apocalypse chapitre 7. Je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Pas de vent pendant quelque temps. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, donc de l'est. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait donné de faire du mal à la terre et à la mer, et dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'avant le châtiment qui tombe sur les méchants, le châtiment qui tombe sur ceux qui ne veulent pas changer de vie, et les hommes sont marqués d'un sceau, c'est-à-dire d'une marque de Jésus-Christ, pour être sauvés. Alors, il y a dans ce texte de 7, 12 000 de chaque tribu d'Israël, mais il y a aussi, après, au verset 9, une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Et ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Donc, nous voyons que sont intégrés dans le même salut les gens d'Israël et les nations. C'est l'accomplissement, évidemment, de la prophétie faite à Abraham. Et c'est l'accomplissement de tout ce que Paul explique dans Romains, au chapitre 4, au chapitre 10, au chapitre 11, au chapitre 9. Il l'explique tant et plus, il essaye de se faire comprendre, ce qui n'est pas simple. Nous tous aujourd'hui, notre cœur doit être ouvert à tous les hommes. Nous devons prier pour tous les hommes, sans exception. Nous ne devons pas avoir de haine. Nous devons demander que Dieu révèle dans le cœur de tous les humains son Fils Jésus, leur fasse connaître le vrai Jésus de Nazareth. Pas le petit Jésus de la crèche, ou le Jésus de Monseigneur, ou Jésus du temple, ou de la basilique. Le Jésus de Nazareth, mort et ressuscité pour nos péchés, qui est vivant au siècle des siècles. Chers amis, c'est le cadeau qui est fait aux hommes, Jésus-Christ. Premier épître de Pierre, chapitre 1. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon son grand amour, nous a régénérés, c'est-à-dire donné une nouvelle vie dans le Saint-Esprit, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut pas se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous, qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi dans le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous êtes gardés par la foi. Dieu vous a donné la foi, chers amis, ou vous ne l'avez pas encore reçue? Demandez-la. La foi, c'est-à-dire la confiance de votre cœur en Jésus-Christ. Vous êtes gardés par la foi, par la confiance en Jésus. Vous êtes gardés pour toujours, pour un héritage éternel, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut pas se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. N'y a-t-il pas de raison, de bonne raison d'être un bon ouvrier, une bonne ouvrière pour Jésus? Nous sommes parmi les plus riches héritiers du monde. Nous sommes parmi les plus riches du monde. Car nous possédons la vie éternelle et la promesse des biens à venir, de la gloire de Jésus sur terre. Amen. Oui, la loi n'est pas anéantie par la foi, bien sûr, hein. La loi de Moïse n'est jamais mise de côté. Le code de la route est toujours nécessaire, hein. Mais quand nous croyons en Jésus-Christ, nous voyons qu'en Jésus-Christ, toute la loi qui a été donnée à Moïse, toute la loi qui nous a été donnée aussi par Moïse, toute la loi est accomplie en Jésus. Elle est vraiment accomplie. Jésus est l'accomplissement de la loi. Et il est l'exemple merveilleux de l'obéissance. Et si nous aimons Jésus, nous sommes envahis du même, la même volonté, du même Saint-Esprit pour respecter et vivre la loi de Dieu. Amen. Merci Antoinette pour cette belle précision.